Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Notre message est de déconseiller formellement ces utilisations pour ces médicaments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, encore une fois, et qui exposent ces enfants à des risques dans le cadre de ces pratiques individuelles.
Le cri d'alarme de l'Agence du médicament, elle saisit la justice contre les médecins qui prescrivent des anti-infectieux aux enfants autistes.
Oui, nous entendrons la colère d'un maire des Bouches-du-Rhône. Sa commune, 100 cas de Covid, fait partie des 27 villes obligées de porter le masque depuis hier.
Un an et demi après l'explosion au gaz qui avait fait 4 morts rue Trévise, la mairie de Paris et le syndic de l'immeuble sont mis en examen.
Une signature historique, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis reconnaissent l'État d'Israël. C'est un coup de tonnerre d'une certaine manière. Décryptage avec l'œil de Didier François dans quelques secondes.
Enfin, que faut-il aller voir dans les films qui sortent demain au cinéma? La réponse de Mathieu Charrier dans ce journal.
La tendance météo avec vous, Anissa. Toujours de la chaleur et un peu plus de nuages demain au programme.
Et c'est dans le sud-ouest, Julien, que les températures seront les plus élevées demain, toujours au-dessus des moyennes de saison. Et puis dans certaines régions, l'atmosphère va devenir orageuse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une décision extrêmement rare. L'Agence du médicament a décidé de saisir la justice.
En effet, elle s'inquiète de la prescription par certains médecins d'anti-infectieux comme les antibiotiques à des enfants autistes.
Ces traitements n'ont jamais prouvé leur efficacité et peuvent même se révéler dangereux, Ève Roger.
Oui, oui, vous l'avez dit, ce sont des antibiotiques, des anti-infectieux, des antiparasitaires ou encore des médicaments censés éliminer du corps des métaux lourds comme le plomb, des traitements prescrits par des médecins à des enfants autistes totalement hors des clous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Pire, vous l'avez dit, ils n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité contre l'autisme. Et pour Philippe Vella, directeur du médicament en neurologie à l'Agence du médicament, il est urgent d'alerter les parents.
Le message qu'on veut porter, c'est un message d'alerte aux familles. Ces familles qui peuvent être dans une situation de désarroi face à une pathologie et à leurs enfants pour lesquels on n'a pas de thérapeutique efficace, curative. Et donc, notre message, c'est de déconseiller formellement ces utilisations pour ces médicaments qui n'ont pas fait preuve de leur efficacité, encore une fois, et qui exposent ces enfants à des risques dans le cadre de ces pratiques individuelles.
Et donc, ces risques, ce sont des troubles digestifs, cardiovasculaires, des symptômes cutanés, mais aussi, et c'est plus grave, ces enfants peuvent développer ce qu'on appelle une antibiorésistance, c'est-à-dire que s'ils sont atteints d'une infection, les antibiotiques pourraient ne plus être efficaces.
Merci beaucoup pour ces explications, Ève Roger. Et maintenant, cette surprise d'un maire des Bouches-du-Rhône.
Oui, surprise et même colère d'une certaine manière, puisque la préfecture a présenté hier les nouvelles restrictions pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. On en a parlé ici même. Parmi les mesures annoncées, le port du masque obligatoire dans 27 communes.
Et sa commune de 4500 habitants, avec aucun cas de Covid, est dans la liste. Et ça ne plaît pas du tout au maire de Mimé, Georges Christiani.
Il y a zéro cas dans les écoles, il y a zéro cas à la maternelle, zéro cas à la crèche. Dans les PAD que nous avons, il n'y a pas de cas. J'ai toutes les attestations. C'est pas normal que je me retrouve sur une liste où je serais censé avoir 100 cas pour 100 000 habitants. Mais dans ma commune, il y a 4 700 habitants. Ça veut donc dire qu'il y a au maximum 5 cas de Covid. Mais on marche sur la tête de ne pas avertir le maire. On marche sur la tête parce que là, on angoisse 4700 habitants alors qu'il y a peut-être 5 cas de Covid positifs que je ne connais pas. Ça met la population en émoi, ça. Le directeur général de la ARS a fauté. Il a fait une faute. Et grave.
Georges Christiani, le maire de Mimé, au micro de Jean-Gabriel Bourgeois.
Et après l'annulation de la foire de Marseille, hier, c'est au tour de la foire de Paris et de la foire d'automne d'annoncer leur report en 2021. Il n'y aura pas non plus de championnat de France de surf cette année. La compétition devait avoir lieu du 17 au 25 octobre dans les Landes.
Didier Raoult est venu s'expliquer aujourd'hui devant la commission d'enquête du Sénat.
Le patron des maladies infectieuses de Marseille avait beaucoup, vous le savez, fait parler de lui en essayant de défendre son traitement à l'hydroxychloroquine contre le coronavirus.
Une présentation, on va dire, entre humilité et pointe d'arrogance.
Je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde.
Voilà le professeur Didier Raoult. C'est une explosion au gaz qui avait fait la une de tous les journaux le 12 janvier 2019. 4 morts, plus de 60 blessés, rue Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris.
Plus d'un an et demi après, la mairie de Paris et le syndic de l'immeuble viennent donc d'être mis en examen. Qu'est-ce qui leur est précisément reproché, Justin Morin ?
Alors, ils sont poursuivis notamment pour homicide et blessures involontaires. Tout est écrit dans un rapport d'expert rendu il y a 5 mois sur lequel s'appuie cette décision. Au cœur de l'enquête, il y a l'affaissement du trottoir qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz. La cause, une fuite d'eau issue de l'immeuble rue de Trévise qui avait été signalée des années auparavant. Le syndic ne l'a jamais réparé, il est accusé de négligence. La mairie, elle, est mise en cause pour un défaut de vigilance. D'après le rapport, l'explosion aurait pu être évitée si les services de la voirie avaient cherché la cause de cet affaissement de trottoir. Une expertise que conteste la ville de Paris par la voix de son avocate, maître Sabrina Goldman.
Nous considérons n'avoir commis aucune faute. Maintenant, nous allons enfin pouvoir prendre part aux investigations qui vont continuer d'être menées et demander une contre-expertise et continuer à essayer de comprendre.
Donc cela va prendre encore beaucoup de temps, des années avant qu'il y ait un procès. Ce que regrettent les victimes, maître Elsa Crosati en défend une vingtaine.
Cette mise en examen, c'est une très bonne chose. Ça fait 2 ans maintenant, bientôt, que les victimes attendent. Elles ont besoin d'être reconnues comme victimes et de percevoir une indemnisation. Mais au final, c'est un début de commencement d'avancée. Tout le dossier est quand même encore très lourd et très loin d'être fini.
Aujourd'hui, les victimes touchent déjà des indemnisations prévisionnelles, mais qui ne sont pas à la hauteur du préjudice, selon leur avocate. Elles attendent de la mairie qu'elle prenne ses responsabilités.
Merci Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Début aujourd'hui au Japon du procès dans lequel aurait dû être jugé Carlos Ghosn. En son absence, c'est son ancien collaborateur chez Nissan, Greg Kelly, qui se retrouve en première ligne. Les deux hommes sont accusés d'avoir caché au système boursier la véritable rémunération que Carlos Ghosn était censé toucher. Greg Kelly a plaidé non coupable à l'ouverture de l'audience. Dans l'Oregon, aux États-Unis, les incendies continuent à faire des ravages dans l'ouest du pays. Sans doute difficile à gérer pour ces viticulteurs français rencontrés par notre correspondant Xavier Yvon. Ils sont installés depuis 20 ans dans l'Oregon et apprennent à vivre avec menaces de feu et pollution de l'air.
Les flammes ont épargné les vignes. Elles se sont arrêtées à 5 km du domaine de Bruno et Isabelle Corneau.
On pouvait voir les fumées se rapprocher sur la colline juste à côté. Et bon, on se serait cru dans un film d'apocalypse avec un ciel rouge foncé.
Le couple de vignerons a eu de la chance, mais c'est tout leur environnement qui est touché.
Je connais beaucoup de gens, non seulement des gens qu'on connaît, mais aussi des ouvriers qui ont été affectés par les feux, des villes entières qui ont été détruites. C'est à la radio tous les jours, ils comptent le nombre de disparus, de morts. C'est très très compliqué, ne serait-ce que pour continuer de travailler, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'aller vérifier s'ils ont perdu des proches ou si même ils peuvent habiter quelque part.
Et puis il y a ce brouillard toxique qui enveloppe les collines et les rangées de cèpes. Il faut porter des masques antiparticules en permanence. Le chat de la famille en est même tombé malade.
J'ai posé des questions à des amis aussi qui ont des animaux domestiques et puis bon, ils ont exactement les mêmes symptômes. Les animaux, les chiens, les chats vomissent. Donc si on voit déjà l'effet que ça peut avoir sur des animaux domestiques, c'est alarmant.
Comment faire travailler les ouvriers agricoles dans ces conditions ? C'est le dilemme alors que les vendanges approchent. Newberg, Xavier Yvon, Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du journal à 19h10 avec Carole Ferry. C'est une signature historique pour l'État d'Israël.
Oui, aujourd'hui à la Maison-Blanche, deux pays arabes vont ratifier un accord de paix avec l'État hébreu.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont donc accepté de reconnaître l'État d'Israël après de fortes pressions américaines. C'est une victoire diplomatique, oui, on peut le dire clairement, de Donald Trump.
Tout à fait, c'est même un beau succès, hein, puisque c'est la première percée diplomatique israélienne dans le front arabe du refus depuis l'accord de paix signé en 1979 avec l'Égypte, puis celui paraphé en 1994 avec la Jordanie. D'autant que cette reconnaissance ne fait l'objet d'aucune contrepartie politique de la part de Tel Aviv, si ce n'est une vague promesse de reconsidérer la menace d'annexion de la vallée du Jourdain agitée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou depuis sa réélection. Et c'est donc un changement de pied important de la part des monarchies de Golfe, dont la position commune était jusqu'à présent de conditionner toute reconnaissance d'Israël à son acceptation de créer un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale. Alors certes, l'Arabie Saoudite n'a pas encore signé, c'est le poids lourd de la région qui était à l'origine de ce plan plan de paix arabe, mais pour autant, elle ne s'est pas opposée à ces accords. Bien au contraire, puisque ni les Émirats ni Bahreïn n'auraient pu les signer sans le feu vert de Riyad. On est donc bien face à une évolution majeure des rapports de force au Proche-Orient.
Alors, Didier, quelles sont les raisons d'une telle évolution ?
Eh bien, c'est l'arrivée au pouvoir dans les monarchies du Golfe d'une génération de dirigeants persuadés que leur ennemi stratégique, c'est la République islamique d'Iran, que les milices révolutionnaires chiites qu'elle contrôle au Liban, en Syrie, en Irak ou en Afghanistan, et puis surtout sa capacité à se doter de l'arme atomique, eh bien, représente une menace mortelle pour le monde sunnite. Et dans cette confrontation, les États-Unis, ce sont leur assurance vie, et Israël pourrait bien devenir un allié de tout premier ordre. Si pour cela, bah, il leur faut sacrifier les revendications palestiniennes, ça ne va certainement pas les empêcher de dormir.
Et ce soir, Netanyahou, Didier, qualifie les accords, je cite, de tournant de l'histoire. Ça n'est pas rien comme déclaration de la part du Premier ministre israélien.
Absolument.
Merci Didier François. L'œil de Didier François, c'est d'ailleurs, vous le savez, tous les soirs dans le journal de 19h.
5 migrants ont été arrêtés aujourd'hui pour l'incendie du camp de Moria, à Lesbos, en Grèce. Selon les autorités grecques, ces arrestations discréditent ainsi le scénario d'un incendie déclenché par des extrémistes.
Et à noter que la chancelière allemande, Angela Merkel, se dit prête ce soir à accueillir 1500 migrants victimes de ces incendies, essentiellement des familles avec enfants. 12 000 demandeurs d'asile au total se sont retrouvés sans abri.
Demain, c'est mercredi, la journée des enfants, mais aussi des sorties cinéma. Et vous nous conseillez ce soir, Mathieu Charrier, Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy que l'on a découvert dans 10%.
Oui, qui est une comédie romantique avec un âne au milieu. Je vous explique. Laure Calamy joue donc Antoinette, institutrice, qui a la bonne idée d'être la maîtresse du papa d'une de ses élèves. Il s'appelle Vladimir, il est joué par Benjamin Lavergne. Depuis des mois, il lui promet une semaine de vacances ensemble. Mais à la veille de ce grand départ, Vladimir lui annonce qu'en fait, il part avec sa femme et sa fille marcher dans les Cévennes, ni une ni deux. Antoinette leur emboîte le pas, aidée d'un âne qui s'appelle Patrick et qui va l'accompagner donc sur ses chemins escarpés et devenir bien plus qu'un compagnon de randonnée. Écoutez Laure Calamy.
Antoinette, elle est comme avec un psy. elle déverse sa vie. Comme nous dit Montaigne, la parole est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et Jazou écoute extrêmement bien.
Ce qui est génial dans ce film, qui est une comédie, c'est que vous avez à la fois les scènes de randonnée dans les Cévennes avec ce duo Laure Calamy et cette âne, un duo tendre et touchant. Et puis derrière, la question du célibat des femmes, puisque ce personnage est totalement dépendante de son homme, mais elle va petit à petit s'en affranchir, évidemment, je le redis grâce à l'âne. Bref, ça fait du bien de voir des comédies intelligentes, réfléchies, construites, réussies. Donc allez-y, ça s'appelle Antoinette dans les Cévennes.
Merci Mathieu Charrier. Enfin Julien, avez-vous une idée de combien de temps vous pouvez retenir votre respiration ?
1 minute 40.
Ah mais dites donc pas mal.
Mais sans bouger, sans lever l'orteil. Sous l'eau, mais sans bouger. Hein.
Ah ouais, bravo. Eh bien, mais sachez, vous êtes quand même.
J'ai fait
encore
ça avec mes
loin.
Enfants il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je le sais.
Du français Arnaud Gérald. Il est resté, lui, en apnée sous l'eau pendant 3 minutes et 24 secondes. Exactement.
C'est là
en
la performance.
Et ouais. Et surtout,
parce que sinon, vous savez que c'est 7 minutes en apnée statique. 7 minutes. Voilà. Bon.
Vous êtes quand même un pro de l'apnée, hein, sous l'eau. Donc, en tout cas, lui, il a battu un record du monde grâce à ses 3 minutes 24 secondes. Il est descendu à 112 mètres de profondeur, en mouvement, bien entendu.
Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. 3 minutes 24, mais à 112 mètres de profondeur. Merci, Carole Ferry, pour le journal.